Des hommes? Non. Rien n'est impossible pour...
Culture prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
À 24 ans, le lieutenant Murphy est l'homme le plus décoré d'Amérique.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale bande dessinée. Nous allons nous consacrer au 9e art avec, entre autres, une évocation de l'album Héros de guerre, tome 3, consacré à Audie Murphy. Audie Murphy, qui est publié aux éditions Bambou dans la collection Grand Homme, qui est signé Philippe Pélaez au scénario et Olivier Frazier au dessin. Olivier Frazier, que l'on retrouvera au micro de Culture Prohibée. Tout cela grâce, entre autres, à l'équipe de Bulle en Stock et des rendez-vous de la BD Amiens 2026. On vous en dira plus sur les rendez-vous de la BD dans quelques minutes. Nous causerons également de Captain America, nos guerres secrètes, de Chips Darsky et Valerio Chiti, paru chez Panini Comics. Également au programme, Shin Zero, le tome 2, signé Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Genin, qui est la suite de la série estampillée Label 619 et qui est édité par Rue de Sèvres. Nous vous signalons que nous avons interviewé longuement l'un des co-auteurs de Shin Zero, Shin Zero BD que nous adorons, et donc nous avons pu interviewer longuement Guillaume Saint-Genin. Guillaume Saint-Genin, vous pourrez écouter son entretien à la rentrée. On fait un peu de teasing à la rentrée dans une série d'émissions consacrées donc au rendez-vous de la BD Amiens 2026, durant lesquelles on a pu interviewer pas mal d'autrices et auteurs que nous aimons beaucoup. Nous aborderons Sur les traces de mon passé, qui est disponible via My Shopify, je crois, c'est chez Centro Caricaturaire, j'ai cru comprendre. Et c'est une BD au sujet de laquelle nous avons eu un entretien avec Nouracha Miazoro, qui est sa co-autrice en fait avec Florent Kassai. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Camille Montero, Lynn Chourek, Sophie Miss, Terren Berriot, Cathy Degreff, Sylvie Chabrou, Pascal Merriot, pour leur aide sur cette émission et pour quelques émissions à venir également. Pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio pour aborder la bande dessinée, Thomas Roland, alias le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes les BDphiles qui nous écoutent.
Il existe de véritables héros, enfin en tout cas des gens qui sont perçus comme des héros, même des héros de guerre, hein, tel Audie Murphy. Audie Murphy qui est né le 20 juin 1925, qui est mort le 20 juillet 1971. Une courte vie, mais une vie intense. Lui qui s'engagea adolescent après la mort de sa mère à seulement 16 ans, 17 ans. Il s'engagea dans l'armée alors qu'il mesurait 1m66 pour 51 kilos. Eh bien oui, il a monté sur son âge évidemment, c'était un tireur d'élite qui s'est retrouvé dans l'infanterie puisque les autres corps de l'armée ne voulaient pas de lui, hein, trouvaient trop frêle, trop maigre, trop chétif, et il a fini par faire la campagne d'Italie, la campagne de France, et il est devenu une légende, il est devenu tout simplement le soldat le plus décoré de toute l'histoire. L'un de ses faits d'armes les plus connus qui a valu la construction d'un petit monument hein, dans l'Est, tellement il a marqué la région de son empreinte. C'est la fois où il a résisté dans les environs de Colmar, tout seul, hein, à l'assaut d'une compagnie allemande. Il l'a bloqué pendant plus d'une heure, et puis ensuite il l'a contre-attaqué et tué un nombre incalculable de soldats ennemis avant de finir blessé et de s'en sortir évidemment. Et puis au sortir de la guerre, il devient une star de cinéma, alors pas une superstar mais une star. Il va tourner dans plus de 40 films, souvent en vedette, hein, comme dans La charge victorieuse de John Huston ou Duel sans merci de Don Siegel. Il va même jouer son propre rôle dans le biopic qui lui est consacré, L'enfer des hommes de Jesse Hibbs, un film qui sort en 55. Et en fait, Eddie Murphy, il reste aussi très important déjà parce qu'il avait une gueule d'ange, il avait un visage très juvénile qui contrastait en fait avec son, entre guillemets, parce que j'aime pas cette expression, tableau de chasse, puisqu'il a tué quand même plus de 240 soldats allemands lors des combats durant la Seconde Guerre mondiale. Et il est aussi le tout premier à avoir parlé du syndrome post-guerre. Il avoue être traumatisé et il est venu en aide à plein de soldats concernés par cette problématique du syndrome post-guerre. Donc c'était un homme passionnant et qui a fini par mourir malheureusement dans un accident d'avion lors d'un voyage d'affaires, parce que c'était aussi un homme d'affaires. Et bien cet homme passionnant, les éditions Bambou, dans la collection Grand Angle, lui consacre une BD qui s'appelle donc tout simplement Eddie Murphy, héros de guerre. Eddie Murphy, donc, qui est signé Philippe Pélez au scénario et Olivier Frazier au dessin. Olivier Frazier que l'on retrouve de suite au micro de Culture Prohibée.
Tout d'abord, Olivier, je voulais revenir sur ton parcours, en fait, en vérité, puisque paraît qu'enfant, tu étais passionné par les dessins animés de Walt Disney, par Tex Avery. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Quand j'étais gamin, moi, ça me fascinait l'animation du dessin comme ça. Et en fait, j'aurais voulu en faire mon métier. À la base, moi, je voulais être dessinateur pour les dessins animés, quoi, être animateur. Parce qu'il y a un côté fascinant quand t'es môme de voir des dessins qui bougent, quoi. Et je recopiais en fait des Disney. Mes parents m'achetaient à Noël des fameux livres que tous les gamins ont eu chez eux, avec les histoires de Disney plus les images, et je m'amusais à les reproduire. Puis après, un jour, je suis tombé sur Tex Avery. Alors là, c'était fabuleux, ça. Il y avait l'humour en plus du dessin, quoi. Puis en plus, une espèce de truc grotesque avec de l'humour noir, et j'adorais ça, quoi. Et donc, voilà, et déjà tout petit, je savais ce que je voulais faire. Et je pense que la plupart des dessinateurs sont comme moi, déjà tout petit, ils savaient ce qu'ils voulaient faire.
Oui, donc c'est une passion qui t'a jamais quitté. Dès tout petit, tu savais
dessinerais. Je pense que, c'était ça. Ou alors, j'étais prof de dessin ou d'art plastique ou d'art graphique. Et j'ai failli l'être parce que j'ai passé le concours. Et heureusement, je l'ai loupé d'un point. Et je crois que c'était ma bonne fortune. Je l'ai loupé d'un point. Donc c'était qu'il fallait que je me dirige ailleurs. Sinon, mais ça ne m'empêche pas de donner quelques cours de temps en temps dans des instituts, aussi à la fac, j'en donne à Westom, qui est une école de 3D où ils font de l'animation 3D. Mais moi, je donne des cours autour de la bande dessinée et du récit.
Ah, oui, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est qu'Olivier Frazier, toi, tu es dessinateur, tu es amiénois.
Exactement.
D'ailleurs, tu as déjà même honoré la ville de nombreux dessins, de BD. Là, on est dans le cadre du festival des rendez-vous de la BD d'Amiens.
Exactement.
Et où tu es présent aussi, d'ailleurs.
Oui.
Et quel attachement, justement, tu as à ta ville?
En fait, moi, quand j'ai fini mes études, je suis parti à Paris. Parce que c'était l'époque où il fallait être à côté des éditeurs pour pouvoir travailler. Il n'y avait pas Internet. Donc, quand tu n'as pas Internet, tu dépends de la poste pour envoyer tes dessins et tout. Donc, j'ai fait ça, c'était galère. Des fois, ils ne recevaient pas les dessins. Alors, à un moment donné, tu te dis, il faut que je sois sur place. Puis pour trouver les jobs, il faut aller les voir directement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai habité plus de 10 ans à Paris pour pouvoir travailler. Et j'ai commencé ma carrière comme ça, en étant indépendant et en allant chercher le taf chez les éditeurs et même chez les fabricants de jeux. À l'époque, c'était les jeux de rôle. Donc j'ai commencé comme ça.
Oui, parce que tu as fait plein de choses en fait. Tu as travaillé dans la publicité, le livre jeunesse, tu as fait aussi...
Scolaire, j'ai fait des livres scolaires. C'est-à-dire que quand les gamins achètent un livre qui est à l'école, tu as toute une partie qui est dessinée pour agrémenter les textes. Et donc j'ai travaillé plusieurs années sur des livres scolaires, chez Nathan, chez... je sais plus, Robert Laffont.
Tu dessinais quoi?
De tout. S'il fallait dessiner des formules mathématiques via un dessin, on faisait ça. Donc c'est des trucs étaient dessinés, tu as toute une charte graphique à respecter avec tout un tas de dessins à faire. Donc tu bosses. T'es content, tu bosses.
Tu fais au moins ce que tu aimes, tu dessines.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et tu faisais aussi des planches pour une revue de science-fiction. C'est la science-fiction, j'ai cru comprendre que ça te passionnait.
Ouais, mais le truc, c'est que ce qui est fou, c'est que je dessine toujours pour cette revue, et ça fait 30 ans qu'elle existe, Et on va fêter, là, au mois de juin, les 30 ans de la rue. Et l'éditeur, c'est un copain maintenant. Et voilà, je dessine depuis numéro 1. Et là, ça va faire le... Je crois que c'est le 123e numéro qui sort.
D'accord.
Et depuis le début, je dessine dans cette revue, quoi. Et c'est génial, parce que tu te dis... de passionné, on est devenu professionnel tous les deux, parce qu'au début, on était ni l'un ni l'autre professionnel. Lui, il est devenu éditeur professionnel. Et moi, voilà, j'ai fait mon métier du dessin.
Et cette revue, donc, on la trouve facilement ?
Ouais, ça s'appelle la revue Bifrost.
Ah oui, effectivement.
Donc voilà, je bosse pour la revue Bifrost depuis le numéro 1. Je crois que je suis l'un des plus vieux collaborateurs de la revue.
Et il y a aussi le jeu vidéo, si je ne m'abuse.
Ouais, j'ai bossé dans le jeu vidéo. Et c'est marrant parce que j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Nicolas Fructus, qui à l'époque dirigeait Arxel Tribe au niveau de la coordination artistique. Et maintenant, il bosse aussi pour la revue Bifrost et les éditions du Belial, qui sont liées. Et en fait, c'est lui qui m'a embauché pour faire du caractère design à l'époque sur des jeux. Je me souviens plus, mais il y avait plusieurs jeux, dont un jeu qui s'appelait Pompéi. Donc c'était sur des jeux très historiques à l'époque. Et ça m'a appris plein de choses, en fait, c'est bien. Parce que tu es obligé de travailler en équipe, à te coordonner avec les autres, c'était plutôt sympa.
Oui, parce que le dessinateur est quelqu'un de plutôt solitaire.
Bah oui. Mmh. Ouais, on sort pas de chez nous, hein, généralement. Sauf ceux qui bossent en atelier, mais même quand tu bosses en atelier, finalement, t'es cloisonné dans ta tête et voilà, quoi.
Alors, il y a eu aussi la BD Le Passeur des Étoiles.
Ah ouais, alors ça, c'est ma première bande dessinée qui est sortie dans les années 2000, 98-2000. Et c'est ma première expérience BD. Et comme à l'époque, j'étais pas sûr de moi, j'ai demandé à un pote dessinateur de qu'on le fasse à quatre mains, en fait. Et c'est ce qui s'est passé sur trois tomes. Et puis au final, c'était une très bonne expérience parce que tu vois les ficelles du métier, comment ça se passe et comment faut procéder pour arriver à un album fini. Puis bon, à l'époque, on n'avait pas d'ordi, donc on faisait la couleur à la main. Alors là, je te dis pas quoi, c'était une sacrée épreuve aussi, ça. Tu sais, à l'époque, on faisait des reproductions sur papier du noir et les rhodoïdes aussi sur du noir. Et il fallait peindre chaque page.
Et l'ancrage, c'était l'Eurotrink ?
Non, c'était pinceau, plume, à la tradie. Ouais. Comme tous les grands de l'époque, on voulait s'initier à ça. Et c'est formateur, mais bon, c'est long. C'est vraiment très, très long.
Avant qu'on aborde la BD, sur Audie Murphy et Rodger, je voulais continuer à revenir sur ce que tu as fait avant, parce que il y a deux choses qui me frappent dans ton travail. C'est que tu as beaucoup travaillé sur la question de la guerre, tu as collaboré, Femmes en résistance, Cicatrices de guerre, et puis tu as travaillé aussi sur l'explorateur Ernst Shackleton, j'espère que je le dis bien. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Parce que tout ça, il y a quand même c'est du travail historique, je suppose que c'est pas simple d'aller chercher des sources, tout ça.
Ce qui est intéressant, c'est de s'accaparer une histoire qui a déjà existé et d'en faire sa, quelque part entre guillemets, sa propre histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est de donner vie à ces personnages qui ont eu une vie assez incroyable au final, et essayer de la retranscrire et donner une atmosphère qui donne envie d'aller observer ce qu'ils ont fait par le biais de la BD ou autre chose, parce que la BD est juste une formule pour montrer ce qu'ils ont fait. Puis après, à eux d'aller voir ailleurs. Mais c'est ça qui me plaît, c'est d'essayer de donner vie à ces personnages incroyables que moi, je ne connais pas forcément dès le début. On propose l'histoire et après, moi, je rentre dedans, quoi. Et là, en l'occurrence, Ernest Shackleton, au départ, c'était un projet pour en faire un film. Donc, c'était Jacques Malater, qui est un cinéaste, en fait, de documentaire, qui voulait tourner l'histoire de Ernest Shackleton, mais en décor naturel. Donc, imagine un peu, il fallait aller dans les glaces et tout, reconstituer tout ça, le bateau, etc. Et il s'avérait que c'était impossible, quoi. C'était trop de budget. Soumettre ça à des acteurs dans le froid, je pense qu'il y avait un truc assez improbable. Donc, au final, ils ont décidé d'en faire une bande dessinée. Ils ont essayé de trouver un dessinateur. J'étais libre, ils ont fait appel à moi. J'ai fait des essais, ça a plu et ça a démarré comme ça. Et au départ, moi, je ne connaissais pas Ernest Shackleton. Et c'est via voilà, tout ce contexte, via Jacques Malater qui m'a présenté le personnage. Il m'a donné plein de bouquins, j'ai lu plein de bouquins. Et puis au final, voilà, tu te dis waouh, incroyable quoi.
Je sais que tu aimes beaucoup le cinéma. Tu peux nous en dire plus sur ta passion du cinéma?
Ma passion du cinéma, pareil, quand j'étais gamin, parce que je crois que mon père, c'est à cause de lui. Il était passionné de cinéma aussi, donc il m'a montré plein de films de l'époque. Donc des films en noir et blanc, j'ai commencé par ça, des films. Après, je pourrais pas te dire tous les titres parce que ma mémoire est un peu défaillante. Mais beaucoup de westerns aussi, les John Wayne, voilà. Et c'est marrant parce que le personnage d'Audie Murphy, je ne connaissais pas son nom.
Ah ouais.
Je ne connaissais pas son nom. Mais quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je l'ai vu dans les films, lui. Ouais. Je l'ai vu plein de fois, en fait. Ouais, parce qu'il a joué des seconds rôles dans les westerns et même des premiers rôles. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic, en fait, en le voyant. Je me suis dit, en fait, oui, je le connais. Et l'amour du cinéma, je pense que c'est, en fait... comme quand j'étais petit, je voulais faire du dessin animé, et je crois que c'est la réalisation qui est intéressante. C'est quand tu te dis, voilà, tu peux faire bouger un personnage, l'emmener là où tu veux, lui faire ce que tu veux. C'est ce côté réalisation qui me plaisait beaucoup. Et dans la bande dessinée, tu es un peu réalisateur de ton histoire, en fait. Même si c'est un peu restreint, c'est en 2D. Mais voilà, tu fais un début, une fin, et à toi de savoir comment tu fais voilà, tes plans pour arriver au final à ce que tu veux. Et c'est ça qui me plaît en fait dans la BD.
Et c'est justement ce que j'allais dire. Dans tes BD, on a l'impression que les personnages sont en mouvement. Il y a un style très dynamique.
Ouais, je pense que c'est le cinéma. Hein. C'est l'amour du cinéma qui me fait faire ça. Quoi. C'est que j'ai envie que ça bouge. Et comme je suis frustré que ça bouge pas, je fais en sorte qu'on comprenne que ça bouge. Quoi. Donc les étapes entre tu te fais l'idée du mouvement entre chaque case. Donc les positions de personnages pour moi sont assez importantes.
Ouais, il y a ça, il y a une idée d'ellipse entre les cases, et parfois même sur la même ligne de strip. Si on va parler, je connais pas les termes techniques.
Oui, c'est ça.
On va avoir un plan large et puis tac tac des petites cases, et ça va donner un rythme.
Ouais, c'est ça. Ah, pour ça j'aime beaucoup aussi le comics américain qui est vachement dynamique et je lisais beaucoup de comics à l'époque aussi, et fatalement ça m'a influencé aussi dans la perception de l'image. Quoi. Et cinéma, tout s'accumulait dans ma tête, fait que quand t'es frustré que tu voudrais faire du film, t'essayes de graphiquement te donner cette réalité.
Et Olivier Frazier, donc là on est ensemble pour parler de Héros de guerre, Audie Murphy, qui est paru chez Bambou Édition dans la collection Grand Angle, mais c'est pas foutu, tu peux encore faire de l'animation, je veux dire, qui sait, c'est une opportunité qui se présentera peut-être.
Peut-être, je sais pas, après moi j'ai aucune technicité, donc quand t'as pas de formation c'est compliqué, mais collaborer un film pour faire du décor, faire du caractère design, pourquoi pas, oui, ça pourrait être sympa.
Parce que l'expérience du jeu vidéo quand même,
tout est un peu lié, mais après de là à en faire... un gros truc, une réalisation, c'est autre chose. Hein. Je suis un peu vieux quand même.
Tu disais à l'instant, Audie Murphy, donc sa tête te disait vaguement quelque chose. Quand tu as commencé à travailler sur la BD, donc tu l'avais certainement rencontré enfant des films.
C'est ça, ouais. En fait, sa bouille m'a parlé tout de suite, en fait, parce que Philippe Pélez me dit écoute, je vais te proposer le projet Audie Murphy, c'est un héros de guerre, c'est un américain, un soldat. Puis il a été acteur à Hollywood. Je dis acteur Hollywood, je dois connaître parce que moi, j'ai quand même regardé énormément de films de Fred Astaire, plein de choses, tu vois. J'aimais tous ces films-là, quoi. Et donc, forcément, quand il m'a envoyé les photos, j'ai fait ouais, je le connais, en fait. Puis c'était plus simple après de s'accaparer sa tête quand tu connais le personnage.
Et justement, à dessiner, parce qu'il a une tête vachement juvénile.
Ouais.
C'est comment on fait pour le différencier des autres, pour lui donner une personnalité?
J'ai essayé de lui donner cette bouille un peu ronde, avec son nez un peu rond, pour le caractériser comme ça, quoi. Qu'il est un peu différent des autres. Puis il était petit aussi, malin. Tout de suite, je me suis dit, faut qu'on... C'est pas un enfant, mais presque.
Vous écoutez Olivier Frazier, dessinateur de Héros de guerre 2, Audie Murphy, disponible dans la collection Grand Angle chez Bambou Édition, au micro de Culture Prohibée.
Bon, Eddie Murphy, je vais le rappeler quand même pour nos auditrices et auditeurs. Alors, bon, moi, je suis assez passionné par cette personnalité parce que c'est une vie qui est complètement hors norme. Quand j'ai su qu'il y avait la BD, j'étais très enthousiaste, au moins pour en témoigner. J'étais vraiment fin fou. Et donc, parce qu'avant d'être acteur, donc il a été un soldat, le soldat le plus décoré de l'histoire, comme soldat américain le plus décoré. Là, je reviens de l'Est, où il y a un monument qui lui est consacré. Les mecs ont même monté sur place un financement participatif pour que le monument consacré à Eddie Murphy soit intégré à un parcours d'histoire, un parcours historique. Ah ouais, là-bas, il est... là-bas, on se rappelle
bien. Adulé, quoi.
Ah, il est adulé. Campagne d'Italie, campagne de France, 1m66. Ouais, un tout petit bonhomme, malin, comme tu disais. Bon,
on lui a... C'est peut-être ça qui l'a sauvé, final. Parce que comme il était petit, il pouvait... se cacher, il pouvait vite passer entre les balles, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, après la guerre, c'est aussi beaucoup de chance.
Et on lui attribue quand même la mort de 241 soldats ennemis, ce qui est énorme, énorme. Et puis après, c'est quand même un parcours assez incroyable, parce que c'est quand même, je pense, un des rares. Alors, il a fait plein de films sympas, dont nous, on a déjà parlé dans l'émission. Il était dans La Charge victorieuse de John Huston, Un Américain bien tranquille de Mankiewicz. Il était le premier rôle de l'excellent Une balle signée X de Jack Arnold, qui est un petit classique du western de série B. Et puis surtout, chose assez rare, il y a Jesse Ibs qui lui a consacré un biopic de son vivant et il a interprété son propre rôle.
Ouais, c'est ça.
L'Enfer des Hommes. Est-ce que toi, tu t'es replongé là-dedans?
Je l'ai regardé. Ouais. Je l'ai regardé, mais c'est marrant parce que. Ça reste ancré dans une époque. Et c'est. En fait, ça manque de réalisme tout en étant réel. C'est bizarre, cette espèce de dualité. C'est-à-dire que c'est un peu surjoué, c'est un peu trop propre, c'est un peu tout ça, quoi. Qui fait que, bon, voilà, je pense que c'était le Hollywood des années 50. Et du coup, ça m'a aidé pour cette figure, en fait, tout simplement, et ses postures. Mais pas pour le caractère guerre, c'est-à-dire la dureté, le côté sale, le côté peur aussi. Que t'as pas dans ce film là, c'est trop surjoué en fait. Il y a un moment donné, je me souviens plus, t'as un de ses potes qui se prend une balle et en fait il tombe, mais quelques secondes après quoi. C'est à dire qu'il y a une espèce de truc où c'est pas réel, tu te dis c'est bizarre.
Oui, bon, ce qui est étonnant parce que lui il l'a vécu quoi.
Ouais, il l'a vécu alors. En fait, il joue son propre rôle, mais il le joue mal en fait, je trouve. Tu vois, c'est pas. Il y a un côté. Il n'était pas comme ça, je suis sûr qu'il n'était pas comme ça, quoi. Il devait être mais vraiment tremblotant, il devait être apeuré. Quand tu vis la guerre, je pense que ça te prend aux tripes, quoi. Ça doit être un truc furieux, quoi. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, t'as plein de jeunes de notre époque qui vivent ça, quoi, dans les pays qui sont à côté de chez nous. Hein. Mm. Donc c'est d'actualité sans l'être, quoi.
D'ailleurs, ce que tu dis, alors c'est juste, en plus pour lui, Eddie Murphy, c'est lui, à ma connaissance, les historiens considèrent que c'est le premier à avoir abordé le syndrome post-guerre, en fait.
Ouais, ouais.
C'est le premier qu'on a parlé.
Exactement, il a l'origine de ça.
Et il disait qu'il était, lui, complètement pourchassé par les fantômes des gens qu'il avait tués et qu'il venait en aide, d'ailleurs, à d'anciens combattants lui-même. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été traumatisé par la guerre. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui ressort dans le film, mais...
Non. Bah ouais, surtout que comme il l'a fait après, tu te dis, on devrait ressentir ça, mais finalement, on le ressent pas. Puisque bon, il joue son rôle d'acteur, finalement.
Ouais, après, c'était un entrepreneur. D'ailleurs, il meurt dans un voyage d'affaires, bêtement, jeune. En plus, c'est destiné tragique que tu mets à la fin de la BD. Là, il y a la petite case. Mais c'est marrant, d'ailleurs, parce que avec Philippe Pélaez, alors, je sais pas comment vous avez... travailler sur le choix des événements que vous relatez, parce que vous vous concentrez en fin de compte sur une période assez courte et ces campagnes ne sont pas détaillées, tout ça, on est vraiment...
En fait, c'est Philippe qui a choisi d'orienter son scénario comme ça. Je pense qu'il voulait être assez proche de la réalité, mais en donnant des événements très... très pointu sur son histoire et assez choisi. Sinon, tu es obligé d'en faire 3 ou 4 albums. Enfin, c'est pas possible parce que c'est tellement intense, c'est tellement de choses. Donc, du début à la fin, fallait choisir les instants assez particuliers de sa vie.
Après, on en a parlé tout à l'heure, mais des cadres, tout ça, une grande variété de cadres et tout ça. Mais je vois aussi, un gros travail sur les couleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout naturaliste. C'est-à-dire que voilà, le travail avec Raphaël Beauduin.
Ouais.
Comment vous avez travaillé ces teintes qui sont globalement assez sombres? On est dans le marron, dans le vert, on ouais, est. Ouais. Ça sent la terre, le.
Ouais, bah, c'est ce que je voulais, moi. En fait, au départ, je voulais faire mes couleurs, mais ça fait quelques années que j'en fais plus, parce que ça demande beaucoup de travail, en plus du dessin. Et donc, je voulais trouver un coloriste qui fasse quelque chose d'assez sobre, et justement qui aille dans un sens où ni pas au graphisme ni au dessin, en donner de la surenchère de couleurs. Moi, je voulais pas ça. Et donc, l'éditeur m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un sous le coude, c'est un jeune coloriste, franchement, tu vas voir, il est super bon. Donc, je lui envoie deux pages, il me les renvoie, mais la journée même, hein, c'est-à-dire quelques heures après. Il avait fait juste des jus de couleurs, mais super rapides. Et je me dis, waouh, je me prends une claque. Parce qu'il avait tout de suite compris ce qu'il fallait. C'est-à-dire que, en fait, il met en avant l'ambiance plus que le décor ou les personnages à mettre en avant. C'est juste l'ambiance. Il y a certaines pages, je ne sais pas si tu t'en souviens, où tu as une prédominance bleue et tu as simplement deux personnages en rouge, tout simplement. Et là, tu sens une espèce de truc avec ces deux couleurs qui font ressortir les personnages et c'est tellement intense, tu sens une espèce de gravité, une peur, quoi. Et c'est exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire une couleur sobre. Et comme moi, j'ai un graphisme assez prononcé, il y a beaucoup de noir, il fallait justement doser très très peu les couleurs.
C'est pas un gros album, c'est une BD qui est assez courte, tout ça.
64.
Et c'est très dense, en fait. Ça se lit pas d'une traite. Alors, je trouve que c'est. Il y a beaucoup de rythme et tout. Ouais. Mais que l'histoire est tellement forte, en fait, que du coup, on le lit par étapes.
D'accord.
Je sais pas ce que tu en penses, toi.
Ouais, mais non, mais moi,
c'est parce que cette ambiance-là que tu décris, là, on la ressent en tant que lecteur.
Sur les lectures, pas vraiment, quoi. À part quelques amis, des choses comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que. Graphiquement, ça veut dire que c'est intense, ça veut dire que les gens peuvent recevoir ça comme quelque chose de.
C'est un petit côté épuisant, en fait, parce qu'on ressent le truc. Il y a toute la partie sur la jeunesse, parce qu'on sent qu'il a eu une jeunesse, voilà, une jeunesse horrible, avec sa mère qui est décédée jeune, son père qui les a laissés tomber, et tout ça. Jusque-là, ça va, et après, dès qu'il part au combat, moi je fais des pauses dans la lecture, parce qu'après, je trouve qu'il y a des différentes étapes, parce qu'en plus, le personnage, il a des étapes. C'est-à-dire que le personnage. Au début, il a un côté naïf, tout ça, il ment un peu, il veut se faire incorporer, il veut y aller. Et une fois qu'il y est, il y a même des moments où il y a un peu d'ambiguïté dans le personnage. Ouais, oui, et il y a des césures un peu dans les évolutions de son caractère.
Graphiquement, moi, au début de l'album, c'est doux, le trait est doux, il est un peu ligne claire. Il est, et je voulais quelque chose d'apaisant. Et dès lors qu'il est sur le front, là, mon trait est un peu plus chargé, il y a un peu plus de noir. Je voulais qu'on sente une espèce d'oppression, même graphique. Donc c'est pour ça que le choix d'avoir ce côté un peu dur du trait, allié à la couleur qui est pareil, assez soft mais très sombre, donne cette ambiance que je voulais.
Et il y a un côté aussi Milton Caniff, je sais pas si c'est...
Oui, on me l'a beaucoup dit ça aussi.
Ouais, dans les tronches, dans les dessins.
Ouais,
dans
c'est peut-être mon influence américaine.
Ouais.
Mon influence américaine qui est un peu de ce côté-là.
Alors, après, tu le disais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus. Je te poserai quand même la question traditionnelle de tes projets en cours. Effectivement, toute cette série, là, Héros de guerre, elle met en avant. En fait, c'est pas des héros, ces gens-là, c'est des gens qui se retrouvent pris dans la guerre et qui deviennent.
Héros par la force des choses.
Exactement, et tu faisais un comparatif entre la situation, malheureusement, qu'on vit aujourd'hui, qui est une période compliquée pour tous. Et est-ce que toi, tu te verrais illustrer, par exemple, une BD qui parlerait de la situation, pourquoi pas de ce qui se passe en Ukraine, pourquoi pas de ce qui se passe en Palestine?
Je pense que ça pourrait m'intéresser. Parce que tu as une violence qui est incroyable. Parce que, en fait, c'est des guerres maintenant qui sont pas terriennes. En fait, c'est tout aérien. Et en fait, tu joues sur la peur des gens qui peuvent recevoir quelque chose du ciel en quelques secondes. Quoi. Et ça, c'est terrible, en fait. Et tu as toute cette pression du quotidien, de ces gens qui vivent ça. Mais je pense que ça doit être terrible. Et j'imagine même pas, tu te balades dans la rue et tu vois des choses voler, tu sais pas si c'est pour toi ou pas, quoi. Et ouais, je pense que ouais, ce genre de choses, ça doit être... Bon, après, voilà, en BD, tu essaies de faire passer des émotions. Après, à toi de trouver comment les passer quand tu vis ce genre de choses. Et ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est pour faire passer l'émotion.
Et toi, tu serais pas tenté par l'idée de faire un scénario perso ou tu préfères travailler avec des scénaristes?
Bah ouais, le truc, c'est que comme tu le sais, les dessinateurs, ils bossent seuls. Donc si je commence à écrire mes histoires, je vais être encore plus seul. Donc déjà, ça va être un peu terrible. Déjà que je sors pas beaucoup. Non, c'est bien. Je pense que c'est bien d'échanger avec des gens. Et ça me force aussi à aller dans des choses que je sais pas forcément faire. Parce que je pense que quand tu es ton propre scénariste, t'as peut-être une protection qui fait que tu vas vers ce que tu sais faire. Et du coup, tu restes dans des choses faciles. Et d'aller de tendre la main à des scénaristes en disant « Vas-y, montre-moi ce que tu veux », bah, ils te poussent en dehors de tes clous. Et c'est pas plus mal, en fait.
J'ai mon collègue qui voulait poser une question, mais comme on est sur les scénarios, je vais quand même poser la question qui suit, parce que comment tu bosses justement, comment tu as bossé là avec Philippe Pelaez sur le scénario? Est-ce que lui, parce que je sais qu'il y a des scénaristes qui storyboardent un peu tout ça.
Non, lui non. Non, lui, il te fournit le scénar écrit, c'est-à-dire de la planche 1 à la planche finale. Donc tout est écrit. Et après, moi, je lui propose des mises en scène. C'est-à-dire que, et ce qui est vraiment bien avec Philippe, c'est que, en fait, il m'a dit, écoute, je sais pas comment tu fais, j'ai l'impression que tu es dans ma tête. Donc en fait, je pense qu'il décrit tellement bien les scènes, il est tellement pertinent, que pour moi c'était facile de mettre en scène ce qu'il avait écrit. C'est-à-dire que j'ai vu tout de suite ce qu'il voulait. Et moi, avec mes références de cinéma qu'a aussi Philippe, on était un peu sur le même, voilà, sur la même vision de la mise en page et la mise en scène.
D'accord. Alors, Olivier Frazier, entre des projets sur Ernest Shackleton ou Eddie Murphy, qu'est-ce qui est le plus excitant dans le processus de création? La recherche de documents ou la mise en scène de ces documents trouvés pour mettre en image?
Moi, c'est le storyboard, la mise en scène. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que si je pouvais faire que de la mise en scène et déléguer sur, comme on fait aux États-Unis, c'est-à-dire que tu as des encreurs, c'est-à-dire que tu as celui qui va mettre en scène, puis après, il donne les dessins à finaliser un encreur, puis après, tu as un coloriste. Moi, j'adorerais ça. C'est-à-dire que toute cette partie, en fait, de travail en amont, de recherche de plans, de recherche de personnages en mouvement, de position de caméra, de décor, tout ça, moi j'adore ça.
Du coup, là pour l'album, tu as été rechercher des paysages précis, de la photo, des choses où tu...
Je me suis documenté sur plein de choses, sur des films, sur ce qu'il y a sur Internet, sur pareil, quand je dessine un char, je suis obligé d'aller voir comment il est, même si... Mon idée n'est pas de dessiner chaque boulon, je m'en fous, c'est pas... Il faut que ça ressemble à un char de l'époque. Et ce qui m'intéresse, c'est de lui donner une vie à ce char, et une espèce de grain de vie, et que ça soit percutant. Il y en a, ils vont dessiner tout au détail près. Je crois que ça n'a pas d'importance quand tu fais une histoire. Ce qui donne, c'est l'émotion que tu vas en donner par rapport à ton graphisme.
Alors, bon, question un peu traditionnelle, mais quand on termine un entretien, mais est-ce que tu as des choses en préparation?
Ah ouais, je suis sur un album encore.
Ouais.
Bah ouais, fatalement, quand on en finit un, t'es obligé d'enchaîner parce que c'est notre taf, et si tu fais pas un livre, voilà, t'as pas de salaire. Donc il faut travailler. Et là, j'ai la chance de retravailler avec Philippe Pelaez sur un nouvel album qui sera encore chez Grand Angle. Et là, c'est encore quelque chose d'historique, mais qui n'a rien à voir. On travaille sur le dernier homme qui a marché sur la Lune, donc voilà, sur les astronautes de l'époque, sur Apollo 17, et tout ce qui était la construction de cette épopée spatiale de l'époque. Donc je suis plongé dans l'époque des années 60-50, avec les vieilles bagnoles, avec les vieux bars de l'époque.
Gros défi aussi, du coup.
Ouais, à l'américaine. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, et puis, je dessine du vaisseau spatial. Je reviens à mes premiers amours avec, avec Le Passeur des Étoiles, où c'était la science-fiction et les vaisseaux spatiaux. Donc ouais, ça me plaît bien.
D'accord. Bah,
donc j'ai déjà fait une vingtaine de pages et ça devrait sortir début de l'année prochaine.
Ah oui, c'est bien engagé quand même.
Ouais.
Et t'en parlais un petit peu à l'instant, t'as terminé là-dessus peut-être, mais le... parce qu'on sait que c'est un secteur, c'est un sujet qui est un peu plus abordé aujourd'hui, mais effectivement, l'illustration, la bande dessinée, c'est un secteur où c'est pas simple pour les auteurs.
Non, bah, loin de là, c'est de plus en plus compliqué, parce que bah, y a trop de livres en fait, il y a trop de livres qui sortent. Bah, je crois que cette année, non, c'est l'année dernière, il y a eu 8000 sorties dans l'année. Donc c'est monstrueux. C'est-à-dire que quand tu sors un livre, fatalement, le libraire, il n'a pas de place pour le mettre en avant. Alors s'il le trouve bien, il va le mettre en avant. Mais comme il en reçoit quasiment tout le temps, il va rester quoi, une semaine, 15 jours, on va dire, visible, vraiment. Puis après, bah, il va être au fond de la boutique, après il va être rangé et renvoyé à l'éditeur. Donc, en fait, tu travailles un an sur un livre pour qu'il soit visible 15 jours, 3 semaines, pas plus. Donc c'est hyper compliqué de toucher les gens quand tu as un livre qui reste aussi peu de temps dans une librairie.
Alors, Héros de guerre, Audi Murphy, je l'ai vu vraiment mis en avant dans un paquet de librairies.
Ouais, ça c'est bien. Puis bon, comme on fait des festivals comme ce week-end, ça permet aussi de montrer le livre. Et c'est pour ça qu'on se déplace. Hein. La plupart en festival, c'est pour montrer les livres et montrer ce qu'on fait.
Et rencontrer les lecteurs.
Exactement.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale bande dessinée. L'entretien qui a été réalisé avec Olivier Frazier l'a été grâce à la complicité de l'équipe de Bulle en Stock, mais aussi des rendez-vous de la BD d'Amiens 2026.
Après un vrai héros de guerre, donc après Audie Murphy, hein, donc qui est mis à l'honneur dans cette bande dessinée, publiée dans la collection Grand Temps chez Bambou Édition, on va parler alors là d'une guerre un peu plus fictive hein, quand même, hein, avec notre ami Damien, de nos guerres secrètes de Chip Zdarsky et Valerio Chiti paru chez Panini Comics, qui est une aventure alors toute récente de Captain America, parce que c'est une aventure de 2025.
Et tu n'as pas idée, Jérôme, à quel point elle est récente, cette aventure. En fait, à l'origine, j'ai hésité de parler à nouveau de Wonder Woman Absolute, mais je l'avais déjà évoqué dans mon top de l'année dernière, et je me suis dit que j'allais plutôt parler d'un autre univers, parce que DC, ils ont remanié un peu leur univers, et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de remanier son univers, c'est Marvel. Ils avaient réédité les Ultimates, et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont un peu en train de refaire une table rase de leur univers, et pour ça, bah, ils ont besoin de faire face à l'un des problèmes les plus importants chez Marvel quand ils refont leur univers, c'est la temporalité. En fait, le problème, c'est qu'ils ont des personnages qui sont liés à des moments de l'histoire. On a Steve Rogers, qui est le premier Captain America, qui apparaît durant la Seconde Guerre mondiale. Lui, généralement, c'est pas un problème. On le met dans de la glace et on le ressort un peu plus tard. On a Magneto, où ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'avoir son histoire dans les camps de concentration. Mais pareil, on lui fait chasser les nazis un peu plus longtemps et on le ramène. Il y en a d'autres où le problème, il se pose vraiment. Par exemple, Punisher, qui à l'origine a été lié à beaucoup de guerres. On a eu la guerre du Vietnam, on a eu avant la guerre de Corée, après maintenant on le lit plus aux guerres en Afghanistan, et le truc c'est qu'en l'absence de Captain, on met en place de nouveaux Captain America pour le remplacer, parfois extrêmement secret, comme Isaiah Bradley, qui fait partie maintenant dans l'histoire actuelle d'un des nouveaux premiers Captain America, qui est le premier Captain America noir, Bucky qui a pris durant un temps le costume, John Walker, William Burnson qui était un peu le Captain America des années paranoïa entre l'URSS et les États-Unis, et là en fait on est un peu dans cette longue lignée en attendant que Captain revienne, il nous faut de nouveaux personnages. Alors, je rappelle qu'à l'origine, le personnage de Captain America est créé par Jack Kirby et Joe Simon. Et le principe est très simple, il y a un nazi, on va aller le déloger de là où il se trouve. Chip Zdarsky, lui, sous la main, il n'a pas de nazi actuellement, même si je pense qu'il aurait pu prendre plusieurs exemples. Il prend le relais ici après avoir modernisé la mythologie de Batman. Il avait fait un excellent travail. La particularité, c'est que Batman, il a dû modifier la mythologie à l'intérieur de Gotham. Là, pour Captain America, il a beaucoup plus les bras libres. Vu qu'on doit attendre Captain America, qu'il est congé dans la glace, pour les années 2000, il va falloir un nouveau Captain. Et ce nouveau Captain, ça va être David Colton. Et David Colton, il y a une raison pour laquelle il s'est engagé et que par chance, il est devenu Captain America, c'est que David Colton, dans sa jeunesse, il se trouve dans un lieu très précis. Il se trouve très précisément à Manhattan, et il se trouve à Manhattan le 11 septembre, alors qu'il a tout juste 9 ans. En voyant son impuissance face à cet événement, il décide de s'engager dans l'armée, parce que même s'il est rempli de vengeance, il est certain de pouvoir essayer de faire le bien. Colton, ça va être le Captain America qui va en fait faire face à la désillusion des États-Unis. Parce que ça va être du coup le Captain America qui va être envoyé en Irak et en Afghanistan pour faire tomber notamment Saddam Hussein. Sauf qu'à l'époque de Captain America, en fait, c'est assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'idée, si on arrive à battre Hitler, on arrive à mettre fin au nazisme. La particularité, c'est que c'est un peu plus compliqué. Alors, le problème de David Colton, finalement, c'est que contrairement à Captain America, où il semblait qu'il suffisait juste de vaincre Hitler pour mettre fin au nazisme, bah, lui, il se retrouve face à quelque chose qu'il va constater, c'est qu'il ne suffit pas de faire tomber Saddam Hussein pour retrouver la paix. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand il arrive en Irak, il explique aux gens qui sont là pour les aider, qui sont là pour eux, il y a quelqu'un qui lui répond qu'au final, ils sont comme l'URSS. Et justement, au moment où ils vont quitter l'Irak pour l'Afghanistan, on revoit un tank de l'URSS, parce que l'URSS avait débarqué pour... pas avec toute son armée, mais avait débarqué dans la région pour soutenir le pays, et finalement avait fini par fuir, parce que en fait, c'est un peu l'équivalent du Vietnam pour les soviétiques à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du comics, il y a une mission qui est très simple. Les deux capitaines sont mobilisés parce qu'il y a une ambassade dans le pays de Doom, qui est un méchant des comics si vous connaissez. Cette ambassade a été attaquée, on a besoin d'aller libérer cette ambassade, du coup on envoie les deux capitaines, et le Captain America qui est joué par Steve Rogers retire sa tenue habituelle pour une tenue plus sombre, et David Colton a sa tenue par contre de Captain America lorsqu'il faisait les interventions au Moyen-Orient. Et c'est deux visions des États-Unis qui s'opposent, parce qu'on a Steve Rogers qui est vu comme l'idéal américain, mais l'idéal américain des années 50, on a une justice qui est très simple, et Colton qui sait que faire le bien, entre guillemets, c'est pas juste être gentil, parfois il faut se salir les mains, parfois il faut tuer. Et c'est une opposition qui va aller jusqu'au bout, même face à Doom, qui considère que Captain, en fait, est dépassé. Et c'est quelque chose que tout le monde lui dit, c'est qu'il ne représente plus du tout les États-Unis. Captain se met toujours en place en disant qu'il ne représente pas les États-Unis, mais qu'il représente les Américains, et si possible, ceux qui font le bien autant qu'ils peuvent. L'entièreté du comics est magnifiée par les dessins de Valerio Chiti, qui nous fait des pages, mais qui sont magnifiques. C'est lui qui m'a donné envie de le lire. Déjà avec sa page sur le 11 septembre, sa page avec la statue de Saddam Hussein qui tombe alors qu'on a le bouclier de Captain America juste à côté. Et très souvent, il s'arrête pour nous faire des pages entières qui sont très très belles et qui mettent en avant soit le côté tragique d'un Captain, soit le côté héroïque de l'autre. En terminant là, je peux dire que j'étais impressionné et très excité sur la suite, surtout qu'en l'absence de Captain America, dans cette chronologie-là, tous les pays ont essayé de développer leur Captain America. Et dans les prochains comics, vu qu'ici nous avons affaire au tome 1, on verra émerger Captain France. Donc si vous avez envie de vous replonger dans un Captain America où l'idéologie s'affronte à coups de mots, mais aussi à coups de poings, je vous conseille ce Captain America top 1, notre guerre secrète de Chip Zdarsky et Valerio Chiti, publié chez Panini Comics.
Sur les traces de mon passé est une BD éditée en auto-édition. Noura Chamia Zoro est une jeune femme d'origine centrafricaine et qui est à l'initiative de sa propre maison d'édition, sans trop caricaturer. Elle est l'autrice du scénario et Florent Kassai, dont nous avons déjà évoqué deux BD éditées à l'Armatan BD, en est le dessinateur. Nous avons déjà évoqué la situation politique de la Centrafrique à travers les deux BD de Florent Kassai, Moi, Anti-Balaka et Destination Tchad. La BD de Noura Chamia Zoro parle de l'impact du conflit sur la population, en particulier du comportement des soldats avec la population à travers une histoire d'amour et les conséquences que cela entraîne. Dans ce récit, elle parle aussi du poids du regard des autres et de la tradition dans la société centrafricaine. La BD sur les traces de mon passé est disponible sur le site, attention, c'est une longue adresse, https://nousraconte-shop.myshopify.com/. Donc, sur les traces de mon passé, nous allons écouter Noura Chamia Zoro qui nous parle de sa bande dessinée. Quel a été votre projet en écrivant cette bande dessinée ?
J'ai souhaité mettre en avant un événement qui s'est déroulé en République centrafricaine, qui est peu documenté. J'ai abordé dans ce volume 1 le coup d'État manqué du 28 mai 2001 qui s'est déroulé à Bangui. Ce coup d'État a eu beaucoup d'impact sur la cohésion sociale, mais aussi dans le rapport avec l'armée, le rapport de confiance. il y a des familles qui ont été les frais des répercussions de ce coup d'État, parce que ce coup d'État, très vite, a été perçu du fait de, des personnes qui l'ont investigué, qui l'ont commis. On est parti d'un. Ça a été interprété comme quelque chose d'ethnique, un dérèglement de compte ethnique, parce que les poutistes étaient majoritairement issus de la même ethnie, de la même communauté que l'ancien président André Kolingba, qui était Yakoma. Donc il y a eu des répercussions sur ces familles Yakoma. Beaucoup de ces familles aujourd'hui continuent à porter les séquelles, porter cette mémoire-là de ce tragique événement. Moi, j'en suis issue aussi de cette ethnie, à moitié du côté de mon père et de ma grand-mère. Donc, je savais que cet événement avait existé. Mon grand-père était d'ailleurs un proche de André Kolingba, qui est le président. Qui a précédé Ange-Félix Patassé, qui était là au moment de ce coup d'État. Donc, il y avait aussi ce besoin-là de partager aussi cette mémoire familiale, le besoin aussi d'informer, le besoin de sensibiliser et de raconter. Mais au-delà du coup d'État manqué, il y a le livre parle surtout de l'amour que le personnage principal, Volotegba, et sa grand-mère entretiennent. Il y a vraiment ce rapport-là à la famille, au lien transgénérationnel, à la nécessité de transmettre et de préserver. Et c'est ça, en fait, que je voulais mettre en avant à travers ce livre, la nécessité de préserver à travers l'héritage, à travers le lien entre les grands-parents.
Pourquoi avoir choisi le format bande dessinée et non pas un format roman ou nouvelle ?
La version roman existe. Elle est en cours d'écriture. Alors, pour ce qui est du choix du format, j'ai souhaité le rendre le plus accessible possible. Un roman, ça prend du temps à écrire et on n'est jamais totalement satisfait. C'est véritablement une sorte de quête. Ça prend du temps de l'aboutir. Et j'avais commencé à écrire ce roman-là. De base, il ne s'intitulait même pas Sur les traces de mon passé. Il s'intitulait Kotazo. Kotazo, ça veut dire grande personne. On le traduit comme personne influente. C'est comme ça qu'on appelle en République centrafricaine des personnes influentes qui ont du pouvoir, qui sont importantes. On dit que ce sont des Kotazo. Mais vu que j'avais déjà une bonne base et que j'en étais déjà au cinquième chapitre, je me suis dit que j'allais quand même utiliser tout ce qui avait été écrit et en faire une bande dessinée parce que c'était assez suffisant pour concrétiser dans le cadre d'un projet de roman graphique. Et j'ai pris contact avec l'illustrateur Florent Cassaille afin qu'on puisse voir ensemble s'il était possible de faire ou non avec ce que j'avais déjà commencé à écrire. Et j'ai l'intention de publier un jour ce roman. J'attends de le faire mûrir et de mûrir avec lui afin de réussir à l'aboutir un jour.
Alors pourquoi avoir choisi Florent Cassaille, par exemple ?
Alors, Florent Cassaille, c'est le frère de Didier Cassaille. Ces auteurs, je les connaissais parce que dans le cadre de mon blog, je mettais en avant des initiatives centrafricaines et notamment aussi des auteurs et des personnes publiques engagées. Et je connaissais Didier Cassaille et je suis fan de son travail. Par la suite, Florent Cassaille avec son livre Destination le Tchad et Moi anti-Balaka. Et j'ai tout de suite aimé son univers. Il est dans la même démarche que moi, je l'ai rencontré. On est devenus amis et aujourd'hui bah, partenaire de travail. Mais il a lui aussi ce désir-là de sensibiliser, de préserver les mémoires à son travail. Le travail de mémoire est très présent. C'est pour ces raisons-là que j'ai souhaité travailler avec lui. Parce que ce que moi je souhaitais produire, lorsque je lui en ai parlé, c'était une évidence que c'était utile. On a tout de suite, il a tout de suite saisi l'utilité publique de ce travail-là, parce que lui-même, il est aligné avec avec ce besoin, cette nécessité et ce désir de sensibiliser.
Comme vous le savez, puisque je vous avais parlé du premier volume avec un enthousiasme non fin, l'une des belles surprises de ces dernières années pour moi, c'est la BD Chine Zéro. Chine Zéro, signée Guillaume Saint-Gelin au dessin et Mathieu Bablé au scénario. Le premier volume, bon, je vous en avais parlé, c'était paru en janvier 2025. Alors, je ne suis pas le seul à aimer, hein, visiblement, parce qu'il y a eu 42 000 exemplaires vendus. C'est un vrai carton, cette BD. Et bah, c'est une BD, mon cher Damien, toi, je sais que tu aimes bien aussi, avant que je parle du volume 2, qui nous parle des Super Sentai sous un aspect plus original, on va dire en phase avec la société actuelle.
C'est la grande force de Barbet, c'est de créer des univers qui sont très spéciaux, et ici c'est également le cas. C'est intéressant que tu en parles comme BD, parce que le format qui est adapté, c'est un peu plus un format manga à mes yeux. On retrouve les Super Sentai, on retrouve des Kaiju, sauf qu'on est à la fin d'une époque rêvée. Ici, on n'a plus besoin de héros pour aller combattre des monstres titanesques. Ici, ce qu'on a, c'est une société qui s'est tournée autour des héros et qui l'a littéralement ubérisé, où dès que vous avez besoin d'un petit service, quelqu'un pour porter vos sacs, quelqu'un pour éventuellement faire de la surveillance devant votre boîte de nuit, vous pouvez en commander un. Du coup, on est dans une période qui est très particulière, d'autant plus qu'on a affaire à des jeunes zéros qui vont être présents. On va retrouver toute une équipe colorée, un peu comme les Power Rangers, bien évidemment, le bleu, le rouge, le rose. Ce qui est intéressant, c'est que les différentes personnalités sont tous un peu à part. Je vais pas vous faire toutes les personnalités, mais juste, par exemple, on a le personnage de Rose, qui a la particularité d'avoir une grand-mère qui, elle, a été là à l'époque d'or, qui pouvait s'agrandir, aller combattre les cailloux, et qui, elle, rêve d'une justice dont on a besoin partout et qui est urgente. Et un des protagonistes, qui est le personnage principal, qui est le perso rouge, qui est vraiment très qui est le perso vert et qui est très particulier, parce que lui, il avait d'autres rêves en tête, mais vu qu'il est amoureux de bleu, il a décidé de rejoindre ce groupe. Et tout son comportement est assez particulier. Est-ce une question de l'innocence de la jeunesse? Est-ce à cause de l'amour? Ou est-ce le début d'un personnage problématique? Je ne sais pas, mais vu que tu as posé tes yeux sur le 2, Jérôme, tu vas pouvoir commencer à peut-être répondre à certaines questions.
J'ai fait plus que poser mes yeux, je l'ai lu avec attention et j'ai pris mon pied. Donc, mais évidemment, c'est toujours une création du label 619, hein, qui est édité par Rue de Sèvres. Et on retrouve effectivement notre groupe de Sentai. Alors, Warren est devenu une star, en fait, après son acte héroïque du volume 1. Il passe, en fait, désormais le plus clair de son temps à servir la communication très calibrée de Sentai Corp, hein, dont la boss d'ailleurs, Sentai Corp, Camille, est le plan cul de Satoshi. Vous me suivez, hein, si vous connaissez un peu les personnages. Et Warren, il est toujours red dingue d'Héloïse, tu l'as dit toi-même, hein, toi t'as parlé en couleur, moi je cite les prénoms, à laquelle il cache ses sentiments. Il est abonné, parce qu'en fait c'est tous des galériens, hein. Elle est à la fois Sentai et Camgirl, et il est abonné à son compte de Camgirl pour pouvoir mater cette jeune femme qu'il aime beaucoup. Il y a toujours la musculeuse Sophia qui continue d'élever seule son môme, tandis que Nikki, en freelance, elle botte toujours le cul des masculinistes et autres individus toxiques. Tous les colocataires vont vivre de nombreux bouleversements dans ce volume 2. C'est l'heure de l'émancipation pour certains, de la résignation pour d'autres, de l'accomplissement pour certains, de l'échec pour d'autres. Et Chine Zéro volume 2 voit en fait ses protagonistes porter en eux le changement, un changement qui intervient dans un monde où tout se dérègle, climatiquement comme idéologiquement, dans une société où les citoyens ne croient plus aux politiques, où la pollution liée au kaiju progresse énormément. Et la question qui se pose, c'est ces citoyens qui ne croient plus en la politique, peuvent-ils croire au Sentai ? Voilà, peuvent-ils croire au Sentai ? Les choix bons ou mauvais de chacune et de chacun sont au centre de ce deuxième opus. Le passage à l'âge adulte dans un monde sans utopie se conclut par une fin quand même assez émouvante. Et je précise qu'il y a encore un volume derrière, donc c'est pas la fin en vérité, mais la fin de ce volume est assez émouvante. Le tout est servi. Alors, c'est pour ça que moi je trouve qu'on est dans une BD, parce que le sens de lecture est un sens de lecture européen, voilà, donc on a le format du manga en termes de taille, je vais y revenir, mais surtout l'esthétique, c'est du noir et blanc qui est teinté un tout petit peu des couleurs des Sentai, c'est rose, vert, jaune, bleu, rouge et un peu de violet, ouais, voilà, ça c'est la surprise, vous verrez, de l'utilisation d'un pointillisme aérographique là, qui est propre en fait, aux publications d'antan, qui étaient imprimées sur du papier bon marché. Et en fait, c'était les mangas pas chers qu'on pouvait glisser dans la poche, qu'on pouvait même, une fois qu'on l'avait lu, laisser traîner dans le métro Tokyo Heat. Voilà, c'était un peu l'idée de retrouver cette esthétique-là. Évidemment, on est toujours dans la description d'une société ubérisée menée par des grandes corporations, avec la politique qui est devenue de la communication. Enfin, d'ailleurs, le politique n'a plus son mot à dire, c'est les grosses boîtes qui dirigent. Pendant ce temps-là, on laisse l'environnement se casser la gueule. Et puis, il y a cette idée d'affrontement générationnel qui était déjà présent dans le premier, tu en parlais toi aussi, Damien, où en fait, on a cette génération d'avant qui a quand même contribué à profiter au maximum de tout ce dont elle pouvait profiter et qui a contribué à donc détériorer énormément le monde pour les générations à venir. Et donc nos Sentai, quelles décisions vont-ils prendre ? Vont-ils décider de s'inclure dans la même démarche et après moi le déluge, quoi ? Ou alors d'essayer de faire de leur mieux, le tout dans un moment donc de bouleversement à la fois sociétal mais aussi dans leur microcosme, dans ce microcosme qu'est en fait leur colocation, hein. Voilà. Donc, voilà, maintenant on attend le volume 3. Alors, ils ont été assez rapides, puisque c'est un volume par an. Moi, j'ai hâte de lire le volume 3 qui va conclure donc, cette trilogie Shin Zero. C'est donc le label 619 associé à Rue de Sèvres qui publie. Et c'est signé Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablé. Et maintenant, on attend la suite avec impatience.
Et juste pour vous faire saliver, je voulais vous annoncer qu'à la rentrée, il y aura donc deux émissions consacrées au rendez-vous de la BD 2026, deux émissions durant lesquelles nous reviendrons sur le contenu de ces rendez-vous. Il y a énormément d'auteurs, aujourd'hui c'est un des festivals de BD les plus importants qui existent en France, et on reviendra sur toutes les expos, sur tous les invités. Et il y aura aussi quelques interviews, vous avez dit tout à l'heure Guillaume Saint-Gelin, mais surtout, une grande star de la BD, une grande dame dont on est archi fan, puisque j'avais mis ce premier tome de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, paru chez Toussaint Louverture en BD, en livre de l'année même. Émile Ferris, voilà, Émile Ferris, on a pu rencontrer longuement, s'entretenir avec Émile Ferris. Donc il y aura Émile Ferris, il y aura Guillaume Saint-Gelin, il y aura plein d'autres choses, on développera sur les rendez-vous de la BD 2026, mais ça, ce sera à la rentrée pour la prochaine saison, la 18e. Toute l'équipe de Culture Prohibée vous souhaite de bonnes vacances estivales et vous dit rendez-vous à la rentrée. One look in the mirror told me so. Come darkness, I'll see her again. Yes, I'm gonna go. Cause now I know. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédy, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit de Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique.